c'est une pièce qui s'appelle Abilify Leponex. Le nom est étrange. Et pour cause, parce qu'en fait, c'est deux noms de médicaments. Et ces quatre-là nous racontent ce que ça peut bien être que la schizophrénie.
C'est-à-dire qu'Abilify et Leponex sont deux médicaments qui sont habituellement donnés aux schizophrènes.
Et c'est aussi le titre d'une pièce de théâtre qui est jouée par nos quatre protagonistes. Bonsoir à vous, ils sont très sages.
Bonsoir. Et c'est une pièce qui a été saluée d'ailleurs par la critique, par le public, Tania, c'est ça?
Ben ouais. Et par nous.
Et on
se devait de la saluer aussi.
Très dans le off d'Avignon en 2010, remarqué. Et c'est ça.
Ouais, près du public.
Et qui continue donc.
Ben oui, qui continue sa route.
Le succès.
Ouais, absolument. Et pour cause, en fait. Donc, Jean-Christophe Dollet, vous êtes comédien et vous êtes aussi metteur en scène de cette pièce.
Eh oui.
Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Alors, oui, parce que je suis aussi l'auteur, tant qu'à faire.
Et l'auteur.
L'auteur du texte qui est publié chez L'Harmattan.
Oui, chez L'Harmattan, L'Écarlate, je précise. Ouais. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Peut-être ma belle-sœur, j'ai envie de vous dire.
Écoutez, si votre belle-sœur vous passe par la tête, c'est pas mal déjà.
La vôtre aussi.
Il se trouve que j'ai une belle-sœur qui est psychologue, qui a travaillé 3 années durant au contact quotidien de ces personnes schizophrènes, et qu'elle m'en a parlé, et que j'ai découvert des choses que j'ignorais totalement. Et que je me suis dit que si je les ignorais, je ne devais pas être le seul dans ce cas-là et qu'il y avait bon nombre de personnes en France et dans le monde qui devaient les ignorer également. Et je me suis dit, c'est important d'en parler pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est des gens qui ont des choses à dire extrêmement fortes, touchantes, violentes, drôles, pleines de poésie. C'est des gens qui souffrent énormément. Et ça, c'est une chose dont on n'a absolument pas conscience tant qu'on ne s'est pas un petit peu penché sur le problème.
Or, 600 000 personnes sont atteintes en France de schizophrénie ou ont des troubles de schizophrénie.
On parle de 1% de la population recensée. Or, un bon nombre de personnes qui sont dans la rue le sont soit parce qu'ils étaient déjà malades, soit parce qu'ils le deviennent en étant dans la rue, parce que la rue est un milieu extrêmement anxiogène et donc peut déclencher des troubles de la personnalité.
Alors moi, je propose juste un truc en fait pour nos auditeurs, pour qu'on se mette dans l'ambiance de ce que c'est aussi, parce qu'on parle d'une pièce de théâtre, donc ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez fait aussi de ces paroles. Je propose que vous vous installiez et qu'on vous écoute. Donc, un petit extrait d'Abilify Leponex, joué par... Donc, nous avons 4 protagonistes. Maxence, qui est joué par Jean-Christophe Dollet, que vous venez d'entendre. Donc, auteur, metteur en scène, acteur. Katie, qui est jouée par Vanessa Ricci. Katie, êtes-vous en place? Oui, elle fait oui avec sa tête. Clotilde Morgiev, qui joue Soizic.
J'y suis.
Elle y est. Et puis, Benjamin Tual, qui joue Antoine. Il y est aussi. Magnifique.
Moi, je veux bien qu'on me dise que je suis folle. Ça me dérange pas, je suis folle, je le sais. Mais parfois, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ce que c'est exactement être fou. Ça m'aiderait de l'entendre. Parce qu'il m'arrive de me dire que c'est pas si grave. Finalement, c'est pas si grave. C'est simplement aller au bout. Je sais pas si c'est très clair, mais simplement aller au bout. Là où les autres s'arrêtent, nous, on continue. Tu vois ? On est comme sans limite, alors je me dis, peut-être c'est tout simplement être soi-même, vraiment. Un courage supplémentaire, peut-être, tout simplement. Et peut-être que si tout le monde avait le courage d'être soi-même, vraiment, une fois dans sa vie, alors peut-être, je dis bien, peut-être qu'il n'y aurait plus de fous. Dans le sens où on serait tous fous. Peut-être.
Les crises, les hallucinations, les voix qu'on entend, tout ça. Assez simplement pour se rassurer. Une manière de lutter contre les résistances du monde. Des armes qu'on fabrique pour résister. Mais pourquoi les gens s'acharnent à nous démontrer qu'on a tort? On ne devrait pas avoir à lutter. Si les gens acceptaient, on n'aurait pas besoin de lutter. Parce que cette lutte, c'est une souffrance pour nous, faut pas croire.
Ouais.
C'est une souffrance. On demande qu'une chose, c'est que ça s'arrête.
Ouais.
Parce qu'on en a marre d'être seul. Oh, puis merde! On n'est pas des pyromanes. On ne met pas le faux voiture. Alors les gens feraient mieux de jeter un œil dans leur soupe. Parce que quand ça tombe, ça tombe. Ça demande pas. Et ça peut tomber sur n'importe qui. On n'a pas choisi, d'accord? De quoi ils ont peur? Qu'on égorge leurs gosses? Qu'est-ce qu'ils veulent nous raser? Et allez, hop, un petit remontant quand ça va pas. Ils savent faire que ça, nous remonter. On n'est pas des horloges.
Cher monsieur le directeur des acédiques, j'aimerais avec vous soulever un grave problème. Les acédiques ne nous prennent pas au sérieux, hélas, car nous ne faisons pas partie de la société tout à fait. Pourtant, grâce à nous, des gens travaillent. Les médecins, les infirmières spécialisées, la comptabilité. Donc nous, les fous, faisons tourner la machine. C'est comme la chaîne alimentaire. Les gros mangent les petits. Nous, on est au tout début de la chaîne. Nous sommes le plancton. Et le plancton, où le plancton? Dans les asiles. Il ne faut pas négliger le plancton de la société, monsieur le directeur. Car sans le premier maillon, pas d'autre maillon. Les acédiques existent grâce aux chômeurs. Les hôpitaux, grâce aux malades, monsieur le directeur, grâce aux malades. C'est comme chez le boucher. Quand je vais acheter mon jambon chez le boucher, je suis l'employeur de mon boucher. Car sans moi, plus de jambon, plus de cochon, plus de boucher. Tout le monde meurt. Sauf le cochon, qui lui continue à vivre. Alors c'est ça que vous voulez, monsieur le directeur? Un monde de porcs? De même pour le premier ministre de la France. Car sans moi, plus rien à administrer, plus de ministres. Il tombe au chômage comme malade. J'estime donc que nous méritons la reconnaissance des pouvoirs publics. Cela m'aiderait à me soigner. De quoi? Je sais pas. Veuillez croire, monsieur le directeur, en l'expression de ma conscience extériorisée dans ces quelques mots, posés sur le papier, tels des cadavres sur le monument aux morts.
Alors, réfléchissez, votez et éliminez le maillon faible. Fin du vote! C'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Tu es le maillon faible. Au revoir.
Adieu. Belle prestation en direct de notre studio 72.
Merci beaucoup à vous quatre. Rejoignez-nous. Alors, c'est ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand vous nous faites entrer dans cet univers, vous nous y faites rentrer par donc, ces quatre voies, quatre façons d'appréhender aussi la maladie. Donc du coup, ça nous oblige à plus voir la maladie, mais à voir des gens malades. Et avec chacun, d'ailleurs, une sensibilité, une façon d'être à l'autre. Il y en a qui vont être dans la douceur, il y en a qui sont plus... Votre personnage, Clotilde Morgiève, elle est plus dans un questionnement, d'ailleurs, une relation à l'autre aussi. Il y a une volonté d'avoir des réponses. Votre personnage, Vanessa, c'est plus quelqu'un qui est dans la lutte. Elle a envie de poser des choses et que ce soit...
Oui, plus dans la lutte. Et je pense que c'est d'apparence peut-être la plus inquiétante comme ça, mais au fond, peut-être pas forcément.
Oui, parce qu'elle a une volonté de construire quelque chose. C'est important pour elle d'essayer d'avancer et d'avoir un cadre, en fait.
Mais tout au long de la pièce, en tout cas, elle a un but. Et elle va y arriver à la fin de la pièce. Mais par contre, bon, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et...
Oui, il y a des aléas.
Justement, Katie, puisque vous êtes celle... qui est peut-être la plus inquiétante, mais qui nous pose la question de quoi ont-ils peur? Et je crois que c'est là-dessus aussi que vous avez travaillé, Jean-Christophe Dolé. J'ai envie de, peut-être au risque de vous déplaire, de
oh là là, la prise de risque maximale.
Vous infliger un petit retour en arrière. On écoute cette archive autour d'un fait divers aujourd'hui connu sous le nom du drame de Pau, un drame... en effet survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004 à l'hôpital psychiatrique de Pau.
France Inter. Elles ont été sauvagement assassinées, double meurtre à l'hôpital psychiatrique public de Pau. Ce matin, les corps d'une infirmière et d'une aide-soignante ont été retrouvés dans le pavillon réservé aux personnes âgées. L'une des victimes a été décapitée, l'autre poignardée au cou. Les collègues des deux victimes ont été fortement choqués par leur macabre découverte, comme l'explique Pierre-Jean, qui fait partie du personnel de l'hôpital.
C'est vraiment l'incompréhension totale, que ça se passe là, que ça se passe comme ça. C'est un film, c'est un mauvais film, quoi, un film d'horreur. Et je vous dis, pour l'instant, je crois que personne n'a réalisé, quoi, hein, vraiment, quoi, hein, parce que c'est l'impression qu'on a rêvé, quoi, qu'on rêve. Hein.
Jean-Christophe Dolé, on vient, petite piqûre de rappel, d'entendre ce drame. Si on le met, c'est qu'à partir de ce mois de décembre 2004, s'est passée toute une succession, justement. Il y a eu d'autres faits divers, il y a eu d'autres choses qui ont effrayé. La France a eu peur, il y a eu des législations, et puis il y a eu certainement, vous aussi peut-être, la découverte que cet univers-là était surmédiatisé, détourné, utilisé.
Utilisé, oui. Ça, ça me paraît évident. Ça paraît évident à beaucoup de gens. C'est un peu facile, quoi. C'est ça que je trouve terrible, c'est que c'est un peu facile de se servir de ce genre de faits divers. Il y en a eu d'autres, effectivement. Peut-être même un plus récent qui a été vraiment le point de départ de ce fameux et, je dirais même, funeste discours de 2008 d'Anthony, du chef de l'État, qui a vraiment créé une réaction très forte dans le monde psychiatrique et qui a été le point de départ aussi d'un mouvement psychiatrique qui s'appelle l'appel des 39.
On en parlera dans la deuxième heure.
Alors, je n'en parle pas tout de suite. mais en tout cas, oui, c'est vrai. Je, encore une fois, je vous dis, moi, j'ignorais à peu près tout de cette maladie-là. Et donc, j'en connaissais ce que les gens en connaissent, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire les faits divers, c'est-à-dire que ces gens-là sont dangereux et qu'il faut s'en méfier et que, attention, on va peut-être se faire égorger. Et j'ai appris que non. Enfin, que évidemment, ça peut arriver, mais enfin, statistiquement, pas plus que moi ou quelqu'un d'autre.
Mais vous, on ne vous connaît pas bien. Mais
méfiez-vous. et ce que j'ai appris, moi, de la part de médecins, de psychiatres, de psychologues, c'est que ces personnes malades sont des gens qui sont bien plus souvent victimes d'agressions qu'elles n'en sont les contraires de victimes. C'est-à-dire
les auteurs. Un beau travail d'équipe là, sur la recherche de jeux.
On s'était dit au début, quand il y en a un qui ne trouve pas un mot, on s'aide.
Ils ne sont pas fous.
Non, c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que ce sont les agresseurs. Et non, du fait que ces gens-là sont dans un monde un peu parallèle, sont dans leur univers qui se fabrique, ils sont très inadaptés forcément au monde qui les entoure, très inadaptés à la relation à autrui, et donc ils se mettent souvent, très souvent, dans des situations très compliquées pour eux, et qui peuvent, le cas échéant, aboutir à des agressions dont ils sont assez fréquemment victimes, c'est vrai. On a donc quatre personnages qui sont quatre schizophrènes, qu'on voit de temps en temps dans leur intimité, de temps en temps chez eux, entre eux. Et il se trouve que là, c'est un moment où ils sont dans l'institution, c'est-à-dire dans l'hôpital, et ils s'adressent à un psychiatre qu'on ne voit pas, qui n'est pas présent sur scène, qu'on imagine.
Et qui sera d'ailleurs jamais présent. Le monde médical n'est jamais représenté sur scène.
Voilà. Absolument pas. Et ce n'est pas un choix contestataire, hein. C'est un choix esthétique. Donc voilà, il s'adresse au psychiatre qui est en face d'eux, donc qui est le public. Et il parle de leurs problèmes, de leur quotidien, de ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils ont besoin de dire pour se défouler, pour être réconfortés aussi. C'est des temps de parole qui existent vraiment, pour de vrai, et qui sont d'ailleurs un peu la base de l'écriture. C'est de là qu'est parti, c'est de ces temps de parole-là qui ont été collectés par la psychologue dont je parlais tout à l'heure, et qui sont la base du travail d'écriture.
Très bien, alors on vous laisse vous installer. Donc, nous avons Maxence qui est joué par Jean-Christophe Dolé, que vous venez d'entendre, qui est donc metteur en scène, auteur et acteur. Katie qui est jouée par Vanessa Ricci, oui. Toujours là. Oui. Clotilde Morgiev qui joue Soizic.
Oui.
Et puis Benjamin Tual qui joue Antoine.
Oui. Tout ceci en direct depuis le studio 72.
Des fois j'entends des voix.
C'est pas moi.
Il y en a qui ont vu la Sainte Vierge ou qui ont entendu Dieu leur parler. Maintenant, ils sont dans le calendrier. Moi, je suis nulle part. Je suis sur l'agenda du docteur, .. Il y a deux poids, deux mesures. Jeanne d'Arc. À l'époque, être schizo, c'était bien vu. Moi, depuis que j'entends des voix, je suis pas devenue ministre de l'Intérieur.
Toi, t'es sinistre de l'Intérieur.
L'Intérieur de quoi, d'ailleurs ?
Moi, je suis pas ministre de la Culture. Mais pourtant, j'ai des champignons partout.
Jeanne d'Arc, c'était pire que moi, parce que moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est mon cerveau qui divague.
Moi, je peux dire d'où viennent mes voix.
Eh ben, dis-le.
La cuvette des toilettes.
L'autre, c'est des voix de chiottes.
Moi, mes voix viennent toujours d'une personne connue, comme ma mère ou mon frère ou un membre de mon père. Un membre de ma famille, je veux dire. Elles me disent où aller, à droite ou à gauche, prendre ceci ou cela. Ma mère, souvent, me dit des choses, bien que morte et enterrée. L'autre jour, elle m'a dit d'aller acheter une tranche de jambon car en réduction. Et j'y suis allée. Et une fois dans le magasin, pas de réduction, pas de jambon. J'ai pas mangé. Et ma mère, toute la nuit, des insultes, des insultes.
Un démon est dans la cuvette des toilettes. Il me donne des ordres, des choses violentes. C'est très angoissant. Dans ces cas-là, faut que je parle à quelqu'un, mais je suis souvent seule. Ou alors, appeler. Mais j'ai pas le téléphone. Ils me l'ont coupé.
Il faudra arriver à ne pas écouter ces voix. À ne pas leur obéir, mais c'est pas possible. C'est comme un film triste. Tu sais que c'est pour de faux et tu pleures quand même, tu vois?
Alors je tire la chasse d'eau pour faire taire les voix.
À l'autre, la facture...
Moi, c'est la télé qui me parle.
À la télé, écoute-le, lui, il se prend pour Barack Obama, lui.
C'est ma télé qui fonctionne pas bien et non pas mon cerveau. Mais comme les médecins refusent de soigner ma télé, bah c'est moi qu'on soigne. J'ai essayé de donner des médicaments à ma télé via Internet, mais inutile car inefficace.
Un moment, je n'osais plus aller aux toilettes. Et je suis devenue très constipée à cause de cela. Et dû me faire opérer pour cause d'occlusion intestinale. J'acceptais de faire mes besoins uniquement dans un sac en plastique après m'être assurée qu'il n'y avait personne dedans.
S'occuper l'esprit fait taire les voix. Jouer, discuter. Pour ma part, c'est danser, mais là, je peux pas, je suis trop cassée.
Aussi, quand il y a eu les événements avec le Tibet. Toutes ces remontrances sur les Tibétains avec fusils et violence. La télé me disait d'aller en Chine pour leur préparer à manger. Mais moi, je sais pas faire le riz cantonais. Moi, je suis plutôt de la Bourgogne, pomme de terre.
Ma mère parlait à travers la fente du mur du salon. Alors, j'ai pris une masse et j'ai tapé sur le mur pour voir. Je me suis retrouvée chez le voisin.
Et l'autre, et la tête du voisin
Au bout d'un moment, j'ai compris que mon démon était passé dans mon anus. Ben, c'est là que j'ai commencé à vouloir me vider pour me débarrasser du démon à l'intérieur de moi.
J'ai dit au voisin que j'avais entendu ma mère parler de l'autre côté du mur. Il m'a dit que ma mère n'était pas là. J'ai dit « Oui, je sais, elle est morte ». Il m'a dit « Bah alors pourquoi vous avez cassé mon mur ?» J'ai dit « Bah pour vérifier ». Il m'a dit « Mes couilles ». J'ai dit « Bah quoi, elle parle pas tes couilles ».
J'ai pu me vider de mes voix par les voix naturelles.
Un jour, Harrison Ford m'a demandé comment cuisiner les araignées. C'était pendant Indiana Jones. Ben, j'ai pas su quoi lui répondre. Moi, c'est les pommes de terre.
J'ai voulu faire analyser mes selles. Quand j'ai demandé au labo de vérifier si les voix étaient dans mes selles, la dame de l'accueil m'a dit que c'est la merde que j'avais dans la tête qu'il faudra analyser.
Et moi, le soir, j'ai eu une hallucination. J'étais toute seule dans mon lit et j'ai vu deux testicules en train de discuter.
Revenez vous asseoir. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous nous plongez dans ce que ça peut bien pouvoir... Qu'est-ce que c'est que cette cuisine interne, en fait, et on y retrouve des choses. C'est pour ça que je disais que les fous sont en nous, ou peut-être que nous sommes les fous, parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'enfance directement, et puis il y a des choses qui nous font dire qu'effectivement c'est très logique, en fait, si on vous écoute.
Ah mais il y a une logique absolue. Absolue. Le délire, ce n'est qu'une logique poussée à son extrême. Mais les délires sont d'une logique incroyable. C'est ça, moi, que j'ai adoré et que j'ai aimé dans l'écriture. Enfin, je veux dire, dans les moments où j'ai écrit, c'est qu'il fallait aller au bout de sa logique. Il ne faut pas chercher des choses extraordinaires à dire. Il faut simplement s'orienter dans une logique et puis aller au bout de cette logique et voir où ça nous mène. Et voilà, c'est ça la folie finalement. Et c'est pour ça qu'on a tous ça en nous, évidemment.
Jean-Christophe Dolay, est-ce que vous, le réalisateur, qui avez étudié justement...
Un metteur en scène, mais comme maintenant vous êtes réalisateur, Alexandre, ça y est quoi, il y a une confrérie qui se...
oui, mais peut-être que vous avez suscité tellement d'images qu'effectivement je me serais cru au cinéma. Mais est-ce que ces voix, pour vous, sont justement ces voix que généralement ils entendent, plus intelligentes ?
Plus intelligentes que...
Là, nous sommes dans un vrai dialogue de fous, c'est intéressant.
Vous savez, non mais c'est très drôle parce que je me suis donc beaucoup documenté et notamment j'ai fait une chose, c'est que je suis allé sur des forums où des gens atteints de schizophrénie parlent entre eux, se répondent, se donnent des conseils, En tout cas, se soutiennent. Parce qu'il y a il y a un vrai soutien, il y a une vraie fraternité entre ces gens-là. Et Eh bien, il y en a un qui disait « Mes voix sont bien plus intelligentes que moi ». Et c'était très drôle parce que ses voix, c'est forcément lui qui les crée. Et il avait le sentiment qu'elle disait des choses qui étaient plus intelligentes que lui. Mais c'est comme un rêve, finalement. Quand on fait des rêves, on invente des choses incroyables qu'on ne soupçonnerait pas pouvoir inventer.
Et s'ils se soutiennent, Jean-Christophe Delay, c'est que les temps sont quelque peu difficiles pour eux. La stigmatisation est toujours très proche, de plus en plus marquée, surtout en période électorale. Et là, je vous propose d'écouter un autre moment de votre spectacle qui n'est autre que, Tania,
qui est le début, en fait.
Le commencement.
Vous nous plongez.
On y va.
Vous vous souvenez tous du meurtre
dont on parlait il y a quelques instants,
commis il y a quelques semaines à Grenoble sur une personne de 26 ans
et hors le mur,
par un malade qui avait fugué de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève,
éminemment dangereuse.
Et c'est vrai que souvent dans la presse, on n'en parle que quand il y a une catastrophe. En France, on en parle quand il y a une tête coupée, quand il y a un meurtre, ce qui fait que les gens dans le public ont l'impression que la schizophrénie, c'est la violence.
Puis je malade. Mesure la porte. Et vous êtes du côté du malade, mais si vous ne l'étiez pas, qui le serait?
Et la
c'est normal.
De votre mission.
Hein, on s'en occupe pas, ils vont vivre dans des asiles.
Mon devoir, citoyen, c'est de protéger la société.
Mettez-vous aussi à
et
la
nos
place.
Compatriotes.
Parce que les gens qui ne se soignent pas, ils sont en danger. Ils sont en danger, en particulier pour eux-mêmes.
L'espérance parfois tenue d'un retour à la vie normale.
Mieux que moi, que des patients dont l'état s'est stabilisé.
J'ose le dire ici. Temps, ne peut pas primer en toutes circonstances sur la protection de nos concitoyens.
Ça pose la question des moyens.
Alors, fausse notion, quand on est schizophrène, on ne peut pas s'en sortir. C'est un cas désespéré. La schizophrénie, ça ne se soigne pas. Ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que la schizophrénie ne se guérit pas.
Alors, en écoutant le début de votre spectacle, Jean-Christophe Delay, si je comprends bien, quand le politique s'en mêle, tout s'en mêle.
Ah, S apostrophe, vous voulez dire?
Bah, écoutez.
C'est bien, vous êtes complètement en phase.
On
les
est
deux,
en phase.
Là.
On est en phase. Oui, ça dépend quelle politique.
Là, d'ailleurs, l'autre voix, en fait, donc la première, alors, c'est notre cher président.
Oui.
Et la seconde voix, quelle est-elle?
La seconde voix, c'est un psychiatre qui s'appelle Nicolas Franck. Et voilà, c'est une conférence que j'ai récupérée, à laquelle j'ai pas assisté, mais enfin voilà, j'ai eu ça entre les mains, ce matériau. Et bah voilà, c'est assez éloquent quand même. Ils disent strictement le contraire. Donc voilà, il y a un médecin qui fait ça depuis toujours, dont c'est la vie, la plus loin vie. Et qui voue toute son énergie à soutenir et à supporter la souffrance de ces personnes. Et puis en face, il y a quelqu'un d'autre.
Non, mais qui a un quelqu'un point d'autre. De vue voilà, de
non, mais qui a
surveiller et punir. On est,
puisque on a tout à l'heure évoqué le drame de Pau en écoutant l'archive, on le sait très bien que ce débat, puisque on n'oublie pas que le responsable de ce double assassinat, Romain Dupuis, avait été acquitté, déclaré irresponsable pénalement. C'est là que le débat a surgi dans la sphère publique. Comment justement poser la question de la responsabilité pénale si on ne peut pas légiférer?
Oui. Bah, il y a débat, et en même temps, c'est prétexte à des lois qui sont globalisantes, c'est-à-dire que de tout d'un coup, on va prendre des mesures globales au niveau de l'État, de la manière d'organiser les hôpitaux, et qui sont des mesures. Enfin, je suis ni infirmier psychiatrique ni psychiatre, mais enfin, pour m'être beaucoup renseigné, pour avoir beaucoup parlé avec ces personnes-là, des mesures qui sont catastrophiques. Parce que justement, on fait de ces gens des assassins potentiels, alors que c'est des gens qui ont besoin d'être soignés. Et au mieux, on les punit.
Exactement.
On les punit alors que le but, c'est quand même de les guérir. Et c'est vrai qu'on est dans une période où c'est quand même pas génial pour eux, quoi. Et y a une phrase qui est dans notre dossier de presse, mais que j'aime bien, qui est d'un éminent psychiatre qui s'appelle Lucien Bonafé, voilà, qui dit qu'on juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. Et bah voilà, je trouve que aujourd'hui le degré de civilisation, j'hésite à en dire quoi que ce soit, mais c'est pas génial quoi.
Yasmina Benbekaï, vous étiez complètement.
Cette phrase, c'est fou. C'est moi quoi.
Mais vous saviez pas qu'il était de Lucien Bonafé.
Oui voilà, très intéressé par les fous, et vous avez vraiment étudié la schizophrénie. Énormément pour faire cette pièce. Et le monsieur, là, le psychiatre, disait que ça ne se guérit pas, mais ça se soigne.
Oui, parce qu'il y a des traitements. C'est-à-dire que quand on
ce qui est d'ailleurs un point important, parce que la pièce, elle porte le nom des médicaments. Et effectivement, Yasmina, ça vous a intrigué, cette histoire de qu'est-ce qu'on fait de nos fous.
Alors, quand on est schizophrène, on l'est à vie. Ouais. Par contre, il y a des traitements qui peuvent soigner les symptômes, qui peuvent atténuer la souffrance, les angoisses, les hallucinations, les voix qu'on entend. Mais c'est pas si simple que ça. S'il suffisait de prendre des médicaments pour aller mieux, voilà, c'est sujet à beaucoup de débats, parce que c'est des médicaments qui, d'une part, sont souvent avec beaucoup d'effets secondaires, même si il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là et que c'est bien mieux que ça n'a été. Malgré tout, c'est pas simple. C'est pas simple de prendre un traitement lourd comme ça jusqu'à la fin de ses jours, surtout quand on a une personne qui a des troubles du comportement, qui est plein de contradictions, plein d'angoisses, et qui se sent aussi violentée par ces traitements-là, et quelquefois à raison. Parce que c'est des traitements parfois durs, quoi, vraiment.
Est-ce que les schizophrènes viennent vous voir ?
Beaucoup. Oui. Beaucoup. Il y a des familles de schizophrènes qui viennent et certaines nous disent « Mais est-ce que vous pensez que je peux venir avec mon fils ou qui est malade ? Ou est-ce que vous pensez que je peux venir avec ma fille ou mon mari ?» J'hésite, j'ose pas. Alors évidemment, on n'a pas d'avis sur la chose, parce que chacun peut en tirer des choses différentes. Mais l'expérience me montre que chaque fois qu'une personne atteinte de schizophrénie est venue nous voir et qu'elle est restée après pour nous parler, ce qui est quand même ce qui est arrivé plus d'une fois, elle nous a témoigné d'un certain soulagement.
Ben moi justement, en fait, j'aimerais qu'on entende un autre extrait, parce qu'à mon avis, celui-là, il doit être particulièrement signifiant pour quelqu'un qui est schizophrène, encore plus que pour nous.
Ce qui nous permettra d'aller au cœur à nouveau en ayant ce nouvel extrait.
Jean-Christophe
Dolé,
vous nous situez un peu cet extrait-là.
C'est donc le personnage de Soizic qui est
joué par Clotilde Morgiev.
Voilà, qui est toute seule chez elle et qui voilà qu'on surprend dans un petit moment d'intimité et voilà qui parle de ses sensations et qui parle de ce que c'est que d'éprouver le vide intérieur.
Le vide. Le vide n'est pas bon pour nous. Il vaut mieux avoir une occupation car ça occupe. Mais ça demande de l'organisation. Et parfois s'organiser est impossible car l'esprit est trop dévasté. Les gestes les plus simples sont impossibles. Se réveiller. Et quoi faire ? Fumer, oui, d'accord, mais d'abord trouver le briquet, et puis trouver la cigarette, et puis allumer la cigarette avec le briquet. C'est parfois difficile d'organiser tout ça, car l'esprit est décomposé. Il n'y a plus de lien entre les choses, et c'est ça le vide. Et le vide, il n'y a rien de pire. Le vide, c'est comme mourir vivant. Le vide, ça ruine l'esprit. Fumer remplit l'esprit, mais ruine le porte-monnaie. C'est un choix. L'autre jour, Maxence m'a donné son vieux mégot puant. C'est pas très agréable à première vue, car dégueulasse. Mais j'ai apprécié qu'il me fasse un cadeau. C'est le signe qu'il se préoccupe de ma santé. Car fumer empêche de se suicider. Et les fabricants de cigarettes l'ont bien compris, car si tous les fumeurs se suicidaient, les fabricants de cigarettes se suicideraient aussi. Fumer occupe le vide de mes journées. Moi, je veux bien m'en occuper. M'occuper du vide. Non. Non, s'occuper du vide, c'est bizarre. Non, je préfère... être occupée à... m'occuper... de choses normales. Avoir une vie normale. Juste ça.
Avec une prise de son de Fabrice Desmaz et Dimitri Gronoff, derrière la console de diffusion, on entendait presque le vide. Aussi, vous avez vu, Tania, dans cette captation.
Je peux préciser une chose, c'est que le son que vous entendez là derrière est réellement sur scène. Mmh. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur les ambiances sonores, sur les atmosphères sonores. Et voilà, il y a souvent des nappes sonores qui accompagnent les textes, qui sont des métaphores de l'intérieur des cerveaux.
De ces voix, justement.
Ouais. Mmh. Oui, et puis il y a cette idée de nous mettre aussi, nous, sans arrêt, dans un déséquilibre entre ce qui a lieu dedans et ce qui a lieu dehors, y compris dans la scénographie, d'ailleurs. On est sans arrêt dans
un...
On est tout le temps dans un dedans-dehors. Est-ce que cette scénographie, elle est arrivée en travaillant, en cheminant, ou est-ce qu'elle était évidente dès le début?
Non, elle n'était pas évidente.
Déjà, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça s'organise sur scène?
Vous arrivez, la première scène, je crois, c'est vous êtes vous enroulez de cellophane.
Je m'enroule de cellophane, oui, enfin, assez rapidement, oui, au début du spectacle. La matière plastique est très présente. On a travaillé avec deux scénographes, Adeline Caron et Nicolas Brisset, à qui j'ai donné une idée. Je leur ai dit, moi je veux du plastique, voilà, je veux du plastique et des rideaux qui vont nous séparer du spectateur. Et à partir de ça, voilà, Adeline Caron a imaginé des espaces, c'est devenu des rideaux, mais lacérés, des lamelles de rideaux en plastique qui sont le symbole. Oui, des symboles intérieurs, extérieurs, d'abord de l'étanchéité entre les deux mondes, le monde des gens normaux et le monde des fous, qui est le symbole du côté hôpital, aseptisé, et ce côté aussi chantier, bâche de chantier, qui symbolique du chantier intérieur de ces âmes en perdition.
D'ailleurs, en fait, au fur et à mesure, d'ailleurs, vous jouez aussi avec nous sur cette idée que les choses nous sont très opaques et obscures. Et puis, au fur et à mesure, dans les déplacements de ces rideaux, ça finit par devenir très clair pour nous. Et en fait, on arrive à la fin très aisément à être collé à cette souffrance, à cette angoisse, à cette drôlerie aussi. Parce que, évidemment, dans la folie, il y a des choses qui...
Et justement, est-ce que les rires
Yasmina Benbekaï.
Alors,
les rires vous gênent? Parce que parfois, c'est drôle, effectivement, mais on ne rit pas avec vous, on rit de vous. Alors, c'est juste, parfois, on se dit, mais est-ce qu'on doit rire, là?
Alors, ouais, pas sûr. Peut-être que chacun a son mot à dire là-dessus. Non. Mais moi, je trouve que c'est les rires, c'est très, très, très délicat.
Ouais,
en fait, je revendique le fait que ce soit drôle à plein de moments. Mmh. Et d'ailleurs, le public qui rit le plus, c'est souvent les psychiatres, bizarrement. C'est souvent des gens qui sont
habitués
toute la journée dedans, ouais, et qui revoient ce qu'ils voient toute la journée, ouais, et qui disent « Ah, mais oui, mais bien sûr !» Et ça leur fait du bien de voir ça. Après, nous, on s'est toujours battus, nous, acteurs, pour ne pas verser là-dedans. C'est-à-dire pour ne pas se complaire dans le rire.
Aussi, faut faire attention.
C'est justement ça, c'est difficile. Tout à l'heure, quand là vous parliez du suicide, est-ce qu'il faut se suicider, tout ça. Et juste avant, il y avait l'histoire des voix et tout ça. Parfois, on a envie de rire et on se retient. Parce que
c'est un peu la manière dont on a travaillé aussi, c'est qu'il y a toute une partie au départ qui peut prêter à sourire. Et en fait, petit à petit, on essaye d'emmener le spectateur vers quelque chose de plus dramatique pour toucher... la souffrance réelle, et je pense qu'à la fin, vraiment, personne ne rit du tout.
Jean-Christophe Dolé, ouais, j'étais juste parce que je me rappelais qu'en début d'émission, on s'était promis d'en parler. Alors j'ai peur de voir le temps défiler. Vous avez aussi travaillé avec l'écho de de tout un mouvement pour la psychiatrie, et justement qui est né à la suite de cette loi dite Dati de 2008. Et ça, il faut peut-être l'évoquer ensemble, Jean-Christophe Dollet.
Oui, alors c'est pas quelque chose avec lequel j'ai écrit, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont j'ai connu l'existence après avoir écrit la pièce.
Donc c'est Collectif 39.
Le Collectif
39. Voilà, le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire.
Oui, parce qu'eux, ils appellent ça la nuit sécuritaire.
Ce qui dit bien ce que ça veut dire. C'est un collectif initié par des psychiatres. Hervé Bocobza, si mes souvenirs sont bons. Des gens que je ne connais pas personnellement ou quelques-uns très 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 brièvement, mais qui sont des gens extraordinaires. Enfin, vraiment, à mon sens, c'est des gens qui sont d'un engagement et auprès de leurs patients, qui sont d'une générosité et qui se battent pour l'humain. Et ça, c'est très très fort. Moi, je suis allé les voir dans un colloque à Montreuil il y a une quinzaine de jours.
Oui, parce qu'ils sont très actifs.
Ils sont très actifs, et de les entendre parler de l'humain.
Ils disent, sans la reconnaissance de la valeur humaine, de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. C'est la phrase de Tosquel.
Moi, je trouve ça très, très fort. Je trouve ça très fort d'entendre ça quand on est assommé de propos sur la sécurité, sur les molécules. Tout d'un coup, on entend des gens nous parler d'hommes et de femmes.
Alors là, je vous propose, Jean-Christophe Dollet, justement d'écouter l'un d'entre eux, puisqu'ils ne sont pas présents dans le corps de votre pièce. C'est un jeune médecin psychiatre, Mathieu, au micro des Pieds sur Terre sur France Culture. C'était le 7 octobre 2011, qui évoque juste une des manières que le corps soignant peut avoir de résister.
La première fois que j'ai désobéi, au fond, c'était pendant mes études, quand j'étais interne. C'est pour la question du diagnostic. Vous savez, souvent quand on voit des patients à l'hôpital, il faut mettre un code de diagnostic au patient pour sa pathologie. Ça peut être F20, schizophrénie. Le problème de ces codes diagnostiques, donc, c'est que ça réduit la personne qu'on voit à un code, à un code barre, quoi. Bon. Et du coup, moi j'avais trouvé une petite astuce. Il y a un code, c'est F99. Et F99, c'est « autre ». Alors vous savez quoi, c'est toujours vrai. Donc je mettais toujours dans les codes diagnostiques F99, autre. Mais bon, les collègues me disaient, non mais il faut être sérieux, c'est important pour les statistiques, etc. Mais je mettais F99. Donc c'était la première petit moment de résistance.
C'est ça, c'est donc, Jean-Christophe Dollet, que l'un des moyens qui peut être appliqué par le corps soignant pour réagir contre ce que vous avez vous-même nommé comme la nuit sécuritaire, surtout quand le préfet devient l'ordonnateur des soins.
Ouais, alors ça, c'est des choses hallucinantes, mais qui me dépassent un peu, parce que j'avoue que moi, j'en ai une connaissance assez succincte, mais c'est vrai que maintenant, on va soigner selon des décisions de justice et non pas des décisions médicales. Bon, j'avoue que ça me dépasse un peu, effectivement.
Le discours de Nicolas Sarkozy et Anthony, on rappelle une phrase simplement, Jean-Christophe Dollet, les experts donnent leurs avis, mais la décision, ce doit être l'État.
Ben oui. Oui, les experts, les corps intermédiaires, tout ça, bon, ça tout dérange.
Tout ça est très intéressant, surtout en pleine mératisation du débat politique en ce moment. Tania, vous avez peut-être envie de rebondir, vous, sur ce qui vous est cher aussi, l'humain.
Rebondir. Non, mais c'est surtout qu'en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yasmina Benbekaï, parce que je trouve que dans le travail que vous proposez, justement, on est autorisé à rire, puisqu'on vous nous donnez accès au fait qu'on a affaire à des êtres humains. Donc, on peut aussi les appréhender. On n'est plus justement à l'extérieur en se disant c'est un fou, donc il faut que je m'en préserve et que je reste très éloigné. On est autorisé puisqu'on a affaire à des personnes qui souffrent, qui se chambrent, qui sont pas contentes. Qui,
je pense qu'on aime tellement nos personnages que effectivement on peut rire. Je crois enfin moi en tout cas, j'aime mon personnage terriblement. Les autres, je ne sais pas. Non mais du coup, c'est vrai que on n'a pas de recul. Enfin, mon personnage, c'est moi. Enfin, on a cherché tous chez nous. On n'est pas allé chercher ailleurs les angoisses ou les choses comme ça. Oui. C'est, on a tous ça en nous. Donc on est allé épuiser là où c'était, pas très loin.
Et du coup, on est proche. Du coup, les gens se sentent proches, le public se sent proche de ces personnes-là, quoi. Et c'était le but. Le but, c'est qu'on se dise pas, oh là là, les fous, en sortant, c'est qu'on se dise, ah ben, les gens, avant de se dire les fous. Et effectivement, comme c'est des gens, on peut rire. Et il n'y a pas de tabou, quoi. On peut rire de leur logique, de leur folie, on peut en rire.
Vous reprendrez bien un peu de l'Éponex, à moins que vous préfériez...
Sans façon.
La Bonify. Jusqu'à quand, alors, on peut voir...
Oh là là, alors, plein de dates. Donc, c'est au Ciné 13 Théâtre. Donc, ça, c'est à Paris. Jusqu'au 15 avril.
Le Ciné 13 Théâtre, dites-moi, c'est pas sur la butte, là-haut?
Bah, c'est Avenue Junot.
C'est Avenue Junot. C'est un génial. Magnifique petit théâtre qui est dirigé de main de maître par Salomé Lelouch, qui nous a reçus divinement, et je la remercie du fond du cœur.
C'est ça. Donc ça, c'est jusqu'au 15 avril. Sinon, le 18 mai, vous serez à Dinan Festival Théâtre en Rance. Et le 31 mai, au Festival du Mot à la Charité-sur-Loire. Et en attendant, eh ben, on peut toujours lire Abilify l'Éponex, texte édité à l'Armatan Collection L'Écarlate.
Oui, je peux juste dire une dernière petite chose.
Elle est microscopique, cette chose.
Il y a une cinquième comédienne dont il faut parler, Marie Réache.
Oui, qui est magnifique.
Qui joue le rôle en alternant ceci.
Avec Vanessa Ricci, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup à tous d'être venus.
Merci
à vous.
Bravo.